des écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. C'est-à-dire que, une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour et bienvenue dans Encore heureux. Né en 1098, en Allemagne, dans une famille aristocratique aisée comptant déjà 9 enfants, Hildegard von Bingen est une figure charismatique du Moyen-Âge, tout à la fois mystique chrétienne, écrivaine, compositrice, philosophe, diplomate, botaniste et guérisseuse. Dès son plus jeune âge, Hildegard montre une ferveur religieuse exceptionnelle. À 8 ans, ses parents décident de la placer dans un couvent de bénédictines en tant que recluse, une pratique courante à l'époque. La vie de recluse est très exigeante. La petite Hildegard ne quitte quasiment jamais sa cellule. Elle vit ainsi de nombreuses années en solitaire. Elle passe son temps à s'instruire dans les textes religieux et dans les arts. Elle apprend à jouer de la lyre. Sa foi et son savoir lui font gagner l'estime de ses consœurs. Et à la mort de l'abbesse, en 1136, c'est elle qui est élue à la tête du monastère. Les abbesses, au Moyen-Âge, avaient un grand pouvoir. Elles pouvaient posséder et administrer de vastes terres, avoir leurs propres soldats et même frapper monnaie. Hildegard dirige l'abbaye pendant 12 ans, puis elle fonde son propre monastère, uniquement composé de femmes de la noblesse, le monastère de Rupersberg. C'est un véritable tournant dans sa vie, car à partir de là, Hildegard va se mettre à voyager et elle va entretenir des relations avec les grands du monde. Plus de 300 lettres attestent des liens qu'elle tisse avec les puissants de l'Église, les moines, les prêtres, les évêques, les papes. Plus qu'une simple interlocutrice, elle était véritablement leur conseillère. Elle n'hésitait pas à se mettre en colère contre des décisions papales ou à donner son avis sur les grandes affaires en cours. Hildegard correspondait également avec l'aristocratie de l'époque. Elle échangeait, entre autres, avec Henri II d'Angleterre, sa femme, Aliénor d'Aquitaine, ou encore l'empereur, Frédéric Barberousse. Le monastère de Rupersberg a un tel succès qu'Hildegard en fonde un second sur les rives du Rhin en 1165. Nouveau monastère dont elle ouvre cette fois les portes aux simples roturières. Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux, portrait intime d'un écrivain, d'un scientifique ou d'un philosophe. Hildegard se distingue également par ses visions et ses prémonitions. Elle entend des voix. Elle dit « À l'âge de 3 ans, j'ai vu une lumière telle que mon âme a été bouleversée. Mais comme j'étais enfant, je n'ai rien pu dire. » À 5 ans, elle décrit avec la plus grande exactitude les particularités d'un veau qui se trouve encore dans le ventre de sa mère. Mais la plupart du temps, elle n'ose pas en parler. À personne, de peur de passer pour folle. Ce n'est qu'à l'âge de 40 ans passé qu'elle aura l'occasion de se libérer de ce poids. L'abbesse a reçu un ordre divin. Dieu lui a dit « Fais connaître les prodiges que tu vis, mets-les par écrit et parle. » Hildegard applique la directive divine. Elle se met alors à raconter ses visions dans un ouvrage appelé « Le Civias ». Certains scientifiques ont attribué les hallucinations d'Hildegard à des attaques de migraine. La migraine, chez certains malades, étant précédée par des troubles neurologiques transitoires appelés aura visuelle. Le mystère en prend un coup. Mais Hildegard von Bingen n'en demeure pas moins une femme exceptionnelle, aux dons multiples. Et l'un de ses dons est la musique. Très inspirée, Hildegard a composé plus de 70 œuvres musicales. Elles sont regroupées en 2 recueils, la Symphonie de l'harmonie des révélations célestes et le Jeu des vertus qui offre 82 mélodies d'une grande richesse. Hildegarde affirmait pourtant avoir composé sa musique sans rien savoir de la composition, par la simple écoute de Dieu. Pour elle, la musique est le miroir de l'âme. Elle soigne le corps et l'esprit au plus profond de l'être. Les sœurs du couvent chantent régulièrement ces cantiques pendant les services religieux ou les cérémonies, ce qui est assez mal perçu des instances catholiques, car l'emploi des instruments de musique pendant les cultes n'est pas toléré. Mais Hildegarde n'en a cure. Dans son couvent, c'est elle qui décide. Pendant les jours de fête, elle impose des tenues luxueuses aux religieuses. Voici ce qu'en dit une supérieure qui se plaint de cette habitude. Les nonnes chantent des psaumes debout dans le chœur, les cheveux déliés et parés de voiles de soie blanche éclatant dont le bord touche le sol. Elles ont sur la tête une couronne dorée où sont harmonieusement incrustées des croix sur les côtés et sur la nuque une image de l'agneau sur le front. On dit aussi que les sœurs ont à leurs doigts des anneaux d'or. Ce à quoi Hildegarde répond que, comme la mariée qui se présente à son époux, la religieuse doit se parer pour se montrer devant le Christ. En plus d'être une compositrice inspirée, Hildegarde von Bingen écrit des poèmes, mais elle ne se contente pas de fades poésies à la gloire de Dieu. Elle insère dans ses textes tout un vocabulaire érotique. Sacré Hildegarde. Autre exemple de son génie créatif, elle invente sa propre langue, qui lui aurait été transmise dans une vision, bien sûr. Elle nomme cette langue la lingua ignota. On ne sait pas trop comment elle l'utilisait, même s'il nous en reste un glossaire composé de pas moins de 1011 mots. Hildegarde von Bingen a une vision profondément religieuse du monde. Cette vision s'articule autour de trois postulats. 1. L'être humain est une créature divine, mais il est un être corporel, avant d'être une entité spirituelle. 2. L'être humain n'existe qu'en relation avec les autres. 3. Il interagit constamment avec la nature. Il a donc une responsabilité écologique. La pensée d'Hildegarde apparaît très moderne. Cette modernité est renforcée par le fait que la religieuse est souvent présentée comme l'une des premières féministes. Mais pas d'emballement. En ce qui concerne la place des femmes, Hildegarde reste ancrée dans la vision sexiste de son temps et de sa religion. Comme d'autres intellectuels du Moyen-Âge, elle ne remet pas en question l'infériorité du sexe féminin. Elle explique cette infériorité par le fait que la femme est faite de chair et l'homme de terre. Mais il est vrai qu'elle est la seule à soutenir que le sang des règles ne souille pas ce avec quoi il entre en contact. Elle est aussi la première à affirmer que la femme n'est pas le seul mammifère ayant des règles. Elle donne en exemple la femelle du singe, ce qu'évidemment les naturalistes confirmeront plus tard. Elle est sensible aux douleurs de l'accouchement, aux douleurs de règles. Elle publie des recettes censées les apaiser. C'est un sujet qu'elle prend très au sérieux. Elle-même de santé fragile, elle cherche des remèdes dans la nature. Elle utilise les plantes, les fruits, les animaux, les pierres. Comme l'Ayurveda indien et la médecine traditionnelle chinoise, elle a une vision holistique de la santé, c'est-à-dire qu'elle considère le malade dans sa globalité. Elle dit très joliment « Le corps est l'atelier de l'âme ». et elle croit en l'idée que Dieu a fourni le moyen de guérir chaque maladie. « Il n'y a pas de maladie », écrit-elle. « Il n'y a que des hommes malades, et ces hommes sont intégrés dans un univers qui, de même qu'ils participent à leur malheur, doit aussi prendre sa part dans la guérison. » Cette idée se fonde sur ce qu'on appelle la théorie des signatures. Selon cette théorie, chaque substance capable de soigner, plantes, animaux ou minéraux, porte une signature qui donne une indication sur son utilité. Autrement dit, Dieu avait prévu des plantes de même couleur ou de même forme que l'organe malade a traité. Par exemple, le cadavre d'un oiseau de couleur jaune sera appliqué sur l'estomac pour soigner la jaunisse. La bourrache sera utilisée pour dégager les bronches, car les feuilles de cette plante tachées de blanc ressemblent aux alvéoles du poumon. Hildegarde mise aussi sur les transferts d'énergie, ce qu'elle nomme la viridité, mélange de verdeur et de vigueur, qui s'obtiendra en respirant souvent un bâton de buis, bois toujours vert. Et puis citons les fameux ingrédients de la joie que recommande Hildegarde pour une bonne santé. Poisson, noix, pommes, poires et surtout le petit épeautre. L'épeautre, dit la religieuse, est la reine des céréales et la panacée contre la dépression et la mélancolie. Il réchauffe et engraisse le corps. Il est très riche et plus tendre que tous les autres grains. L'épeautre rend saine la chair de quiconque en consomme. Il met la joie au cœur et donne de l'entrain. C'est l'ingrédient de base de ces célèbres biscuits. Les biscuits de la joie de Hildegarde von Bingen. Ces gâteaux du bonheur, assure-t-elle, dispersent l'amertume qui est dans ton cœur. Ils l'apaisent et l'ouvrent. Mais ils ouvrent aussi tes cinq sens, te rendent gai, purifient tes organes sensoriels, réduisent les humeurs nocives et donnent à ton sang une bonne composition. Ils te rendent robuste, joyeux et efficace dans ton travail.
Vous êtes sur Radio B. Vous écoutez Encore Heureux. Portrait intime d'un écrivain, d'un scientifique ou d'un philosophe.
Mais l'épeautre, grand ou petit, a ses limites. Hildegarde von Bingen meurt le 17 septembre 1179, le jour qu'elle avait prédit, au milieu de ses nonnes, après une longue maladie. On dit que deux arcs-en-ciel apparurent et formèrent une croix au-dessus du monastère, comme si le ciel lui rendait hommage. On raconte aussi qu'une lumière fut observée pendant plusieurs jours au-dessus de sa tombe et de nombreuses guérisons miraculeuses furent constatées. Les foules de pèlerins qui se pressaient à sa tombe incommodaient cependant le monastère, de sorte que l'évêque de Mayence dut intervenir en interdisant à la défunte d'opérer des miracles. Celle-ci obtempéra. Et aucun miracle ne fut plus observé sur sa tombe, qui tomba lentement dans l'oubli. L'Église a longtemps ignoré l'héritage d'Hildegarde von Bingen, sans doute en raison de son caractère rebelle. Ce n'est qu'en 2012 qu'elle est canonisée par le pape Benoît XVI. Elle devient alors la quatrième femme docteur de l'Église, après Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux. Laissons-lui la parole une dernière fois, avant de clore son portrait. Depuis mon enfance jusqu'au temps présent, où je suis âgée de plus de 70 ans, je vois toujours cette lumière dans mon âme. Je ne l'aperçois ni par les yeux, ni par le corps, ni par les pensées du corps, ni par aucune action de mes cinq sens extérieurs, mes yeux cependant restant ouverts, et les autres sens corporels conservant leur activité. Cette lumière que je sens n'est pas locale, mais infiniment plus éclatante que celle du soleil, et je ne saurais en considérer ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur. Elle m'est nommée l'ombre de la lumière vivante, et comme le soleil, la lune et les étoiles se réfléchissent dans l'eau, ainsi les écrits, les discours, les vertus et les œuvres des hommes m'apparaissent dans cette lumière. Chers auditeurs, merci. Rendez-vous le 8 décembre pour une nouvelle émission d'Encore Heureux, ou avant, si vous écoutez l'un des nombreux portraits disponibles en podcast sur le site. À très bientôt sur Radio B.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre. Une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.